bienvenue dans Carte Blanche le 25 mars. Il est midi, cause commune, de midi à 17h, de 21h à 4h du matin. Aujourd'hui, on va parler des élections municipales qui viennent de se terminer. On va s'intéresser aux listes citoyennes.
Carte blanche sur Cause commune, la couleur du jour.
Les listes citoyennes, qu'est-ce que cela signifie et comment ces gens qui vivent peut-être pour la première fois des élections ont-ils vécu ces élections? C'était la mission que je me suis assignée pour cette émission du 25 mars. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas une franche réussite sur ce sujet précis. On va tirer de ces listes citoyennes des choses que je pense encore plus intéressantes. Et nous avons deux exemples. Aujourd'hui, on va commencer avec quelqu'un que vous entendez souvent sur cette antenne, sur l'antenne de Cause Commune, c'est Stéphane Manet, l'ancien présentateur de Carte Blanche de cette émission. Stéphane Manet qui s'est présenté, il était numéro 3 sur une liste à Montrouge, une liste qui a fait 3,31%. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai simplement demandé comment il en est arrivé à se présenter sur une liste citoyenne à Montrouge.
Comment je me suis retrouvé là? Peut-être déjà pour donner de l'historicité et puis faire le truc dans le sens chronologique. Moi, je m'étais investi dans la politique en commençant par les listes citoyennes. On devait être en 2013, quelque chose comme ça, donc il y a à peu près 7 ans. Parce que j'avais envie de m'investir, mais pas forcément ni de le faire à travers un parti politique, ni de le faire à travers autre chose qu'un scrutin local qui me parlait plus que les autres. Donc à l'époque, j'étais plutôt dans cette dynamique-là. Et donc, il se trouvait que dans ma ville, il y avait une seule liste citoyenne qui se présentait. En fait, c'était même pas, je cherchais même pas une liste citoyenne. Hein, je cherchais simplement à m'investir dans ma commune et à me rendre utile. Et de manière très humble, en fait. Et en cherchant un peu les uns les autres, il y en a un qui affichait pas de parti. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'en fouillant un petit peu plus, je me suis rendu compte qu'en fait il avait eu un parti, donc j'ai pas manqué de l'occasion de lui poser la question, mais pourquoi et comment machin tout ça et pourquoi tu en fais plus partie. Bon, je vais pas forcément parler à sa place, mais en gros il avait pas forcément envie qu'un parti politique vienne lui expliquer comment il devait agir au local et pour lui la compétence locale c'était la seule compétence importante quoi. Donc du coup on fait ce qu'on fait au local simplement parce que c'est ce qui est utile de faire. Pour prendre un exemple concret, bon un petit peu bateau, mais je sais pas, enfin la loi t'oblige à avoir 25% de logements sociaux. Enfin, à l'époque non d'ailleurs, c'était 20, mais depuis c'est 25. Tu fais au moins 25% de logements sociaux. Potentiellement, tu peux faire plus que 25% de logements sociaux. Mais par contre, t'as pas à avoir un parti politique qui, à une échelle nationale, te dise « Alors, il faut tous que vous ayez tel pourcentage parce que toi, ta situation locale, elle va être... » Donc moi, par exemple, dans une ville de banlieue de petite couronne, elle est adhérente au Grand Paris, cité dortoir par rapport à la ville de Paris où les gens vont travailler. Enfin, tu vois, il y a une sociologie, il y a une dynamique en place qui est vraiment très spécifique et qui fait que, voilà, l'idée, c'est de prendre un petit peu, c'était de s'émanciper par rapport au parti politique en général. Donc, je me suis retrouvé là-dedans comme ça et c'était ça un petit peu la démarche de tout à chacun qui s'est retrouvé là-dedans à l'époque. Peut-être aussi pour prolonger un petit peu la question, donc à l'époque, c'était dans ma ville, il y avait une liste citoyenne en 2014, c'était la nôtre. Et là, cette année en 2020, il y en a eu, que je te dise pas de bêtises, 3 sur 7. Et il y en a eu également 2 qui affichaient leur parti politique de manière un peu discrète.
Ça veut dire quoi, de manière discrète?
Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir, il peut y avoir plein de cas de figure. Soit électoralement parlant, et ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est pas vendeur de mettre les partis politiques en avant, surtout sur un scrutin local où on a compris que c'était vraiment une figure locale, une personne connue, tu vois, localement qui va faire la différence. Donc, dans ce cas-là, certains partis politiques ont reçu consigne de ne pas afficher leurs étiquettes. C'est le cas de En Marche et France Insoumise. Enfin, encore que France Insoumise, c'est spécifique. C'est-à-dire qu'eux, ils ont reçu consigne justement de s'investir dans les listes citoyennes. C'est-à-dire pas forcément faire liste à part seule et de faire de l'entrisme, je mets des guillemets sur entrisme, mais auprès des autres listes citoyennes. Alors qu'En Marche, non. En Marche, c'est accord national de parti, qui sont des accords financiers, mais ça t'intéresse, on pourra y revenir, et ne pas afficher les logos, parce que c'est moins vendeur. Donc c'est ça que ça veut dire. Après, on peut nuancer aussi un petit peu. On a parfois des listes citoyennes qui sont des gens qui ont une appartenance à un parti politique, plus ou moins forte, et qui n'affichent pas le parti politique, déjà parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Comme je disais, c'est un accord national, donc ils n'ont pas forcément l'accord, mais surtout parce qu'ils ont, ils ont pour X ou Y raison envie de prendre leur distance vis-à-vis du parti en question, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une ligne, mais qui reste. Enfin, il peut y avoir plein de cas de figure, mais souvent, de manière générale, dans n'importe quelle liste citoyenne, les partis politiques ne sont jamais tout à fait loin, en fait.
Alors, je vois justement, pour prendre l'exemple concret de Montrouge, que la deuxième arrivée, c'est Juliette Méadel, qui était socialiste, il me semble, et qui se présentait donc contre un candidat, lui, investi par le Parti Socialiste. Donc c'est encore un cas de figure différent.
Oui, absolument, ouais. Ouais. Alors, par exemple, donc là, effectivement, le tête de liste socialiste, lui, a eu le mérite d'afficher de manière très, très claire et très honnête c'est les différents partis qui ont composé sa liste. Donc, avec vraiment une succession de logos, Parti Socialiste, Génération S, j'espère que j'en oublie pas, Parti Communiste, Place Publique. Voilà, et Juliette Méadel, c'est différent. Juliette Méadel, elle a pris de la distance vis-à-vis du parti. Elle a été porte-parole du Parti Socialiste et elle a été également ministre. Elle a été secrétaire d'État en charge des victimes sous François Hollande. Donc elle a été dans un gouvernement socialiste également. Et là, je pense qu'elle a pris, bon, pareil, hein, je ne vais pas me permettre de parler à sa place, mais elle a pris beaucoup de distance vis-à-vis du parti. Et là, il n'y a rien de déguisé de sa part. En l'occurrence, je pense que elle a vraiment eu l'intention de faire une liste citoyenne parce que elle a pris du recul par rapport au Parti Socialiste. Peut-être pas forcément par rapport à d'autres partis, mais en tout cas par rapport au Parti Socialiste, oui, c'est sûr que voilà, elle est passée à autre chose, quoi. Qu'on soit liste citoyenne ou pas, de toute manière, il faut présenter un projet. Et présenter un projet, c'est aussi présenter les personnes qui vont le porter. Donc il s'agit en gros de, par exemple, moi, troisième de liste, je sais bien que je me positionne maire adjoint. Alors, très peu probable que j'ai une maire adjoint, surtout avec un score de 3,5, évidemment. C'est pas ça que je dis, hein, mais je le dis avec humilité. Mais ça veut dire quand même que c'est pas anodin de se situer à cette place-là, et ça veut dire qu'il faut avoir conscience que on demande auprès de l'ensemble des citoyens d'avoir une fonction avec énormément de responsabilités qui implique de pouvoir être appelé à 2h du matin par la police municipale quand il y a un truc et quand on est d'astreinte, et surtout de porter un programme qui est un programme fort qu'on reçoit par délégation du maire. C'est-à-dire qu'en gros, le maire, il a tous les pouvoirs de la commune, et il délègue comme il veut les différents postes de maire adjoint. Pour prendre un exemple concret, à Châtillon, le maire adjoint à l'éducation, lui, il a tout le portefeuille de l'éducation. C'est-à-dire qu'il a l'éducation, il a les cantines, les périscolaires. À Clichy, la même maire adjointe de l'éducation, auprès de donc Rémi Museau, le maire, elle a pas toute l'éducation. Et notamment, elle a pas le périscolaire. Parce que lui, il a fait le choix, tu vois, de diviser les compétences.
Et donc, pour revenir à l'organisation, ça demande de se rencontrer. Et comment ça se passe, ces sessions de travail-là ? D'ailleurs, vous êtes 45 personnes sur la liste. Vous étiez 45 assez tôt ?
Non. Non, non. On a été 45 très tard. Bon, en plus, en particulier, là, sur les conditions de cette campagne qui ont été assez difficiles. Mais oui, on a été 45 assez tard. Et puis dans toute liste, tu n'as jamais 45 personnes qui sont parfaitement actifs parce que tu as des niveaux d'engagement différents. Tu as des gens qui disent « Bon, je vous soutiens, mettez mon nom sur la liste, mais mettez-moi en fin de liste en non-éligible pour que je sois tranquille. Mais pour la démarche quand même, vous pouvez utiliser mon nom. » Et puis il y en a d'autres qui vont être à fond, etc. Il y en a qui vont être très militants et qui ne vont pas demander de place. C'est souvent le cas des mandataires financiers, par exemple.
Des mandataires financiers.
Donc le mandataire financier, en gros, c'est le trésorier de la liste. C'est celui qui vérifie les comptes, la justesse des comptes, qui va être garant du coût du remboursement quand on fait plus de 5%. Et le mandataire financier ne peut pas figurer sur la liste. Il est. Enfin voilà, ça c'est une obligation légale, c'est pas possible. Le mandataire financier, c'est forcément quelqu'un qui est non éligible.
D'accord, donc ça demande effectivement de l'implication bénévole, quoi.
Alors, oui, bon, on l'est toujours de toute manière, hein. Mais
oui, mais pour le mandataire financier, il n'a rien à gagner, sinon son engagement militant.
Oui, c'est ça. Bon, il peut gagner aussi un poste contractuel une fois l'élection passée, hein. Ça, tu vois, il peut se passer des choses aussi. Hein. Ça c'est une affaire de bon, chacun sa morale et sa vision des choses, quoi. Mais oui, ça peut se faire comme ça.
Premier choix
de Valentin Taxier pour cette émission. Valentin, que vous retrouvez tous les vendredis soirs de 23h à minuit sur Cause Commune dans Escalade Tapes. Et ce morceau, c'était celui d'un artiste qui s'appelle Andrea Laszlo de Simone. Et le morceau s'appelait La Nostra Fine. C'est un morceau sorti en 2019 dans le troisième album de cet artiste.
Carte blanche, votre midinale du mercredi sur Cause Commune, 93.1 FM.
Je vous l'avais annoncé, il y a bien deux exemples de listes citoyennes aujourd'hui. Ce deuxième exemple, il vous est présenté par Bruno Cristofoli. Bruno Cristofoli était second sur la liste Saint-Médard-Anjal demain 2020. Donc c'est bien à Saint-Médard-Anjal, une ville proche de Bordeaux, une ville d'environ 30 000 habitants tout de même. Eh bien, il était donc colistier de Cécile Marenzoni, qui est arrivée quatrième sur 4, avec quand même un score de 16,94% pour sa liste. On va écouter ce que nous dit Bruno sur son parcours et ce qui l'a amené à être candidat sur cette liste citoyenne.
En 2015, avec des copains, on discutait et on a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour redonner envie aux gens de s'investir dans la vie de la cité, d'une manière générale. Voilà. Et donc, on a créé à ce moment-là un collectif citoyen qui s'appelle Les Girafes Diagonale Citoyenne. Et donc, en fait, pourquoi Les Girafes? C'était l'idée de prendre un peu de hauteur et c'était l'idée aussi de c'est aussi l'emblème de la communication non violente, la girafe. Si vous regardez des vidéos de Marshall Rosenberg, l'inspirateur de la communication non violente, il oppose le langage chacal au langage girafe.
Voilà. D'accord.
Et donc, en fait, on a créé ce collectif. J'avais lu un bouquin d'Alexandre Jardin à cette époque-là, là, et dedans, il parlait de Joe Spiegel. Joe Spiegel, qui est le maire de Kingersheim en Alsace. Qui est une ville où la participation citoyenne est en place depuis de nombreuses années. Et donc, on a appelé Joe Spiegel parce qu'il venait à Bordeaux pour faire un exposé sur la place du citoyen dans la vie publique. Et on a créé Les Girafes en janvier 2016 et il a accepté d'être notre parrain. Donc en fait, oui, il reprenait l'avion à 10h du matin pour Strasbourg et on a fait nos trajets de création à 8h30 dans un bar à Saint-Médard, et il est venu et il est devenu notre parrain. Voilà. Je vous raconte ça parce que c'est le début de l'histoire, en fait.
Oui, c'est la démarche citoyenne, elle est là, avant tout.
Voilà, la démarche citoyenne, au départ, elle est là, et donc avec Les Girafes, pendant 12 ans, là, de 2015, on va dire, au tout début 2016 à 2017, on a fait plein d'actions. On a fait on a mis en place des boîtes à livres, on a fait des conférences, on appelle ça des conférences, des conférences où on laisse beaucoup de place à l'échange. On a mis en place une monnaie locale sur la ville, enfin, c'est une monnaie qui existait à Bordeaux, mais on l'a fait venir jusqu'à Saint-Médard, qui est toujours d'actualité chez les commerçants, ça s'appelle la miel, voilà. Une monnaie d'intérêt économique local. On a fait tout un tas de choses, on a fait un week-end autour de la transition, en se rapprochant des gens de la transition. Qu'on a appelé le rendez-vous des possibles. Voilà, on a fait plein d'actions. Et puis à un moment, il y a le maire chez nous là qui a sorti un projet de chapeau qui était de refaire totalement la place de la ville. Et donc cette place qui était un parking avant tout. Et donc nous on s'est dit c'est l'occasion en tant que collectif citoyen d'aller voir la population parce qu'on sentait bien que c'était quelque chose qui allait pas être consulté comme d'habitude ou alors consulté à la marge. Donc en fait on a fait une enquête on a eu plus de 700 avis et donc de cette enquête en fait il ressortait que pourquoi pas refaire des choses sur la place mais pas un truc gigantesque comme il était en train de le proposer qui au final parce que ça vient de se terminer juste avant les élections, comme par hasard, coûte 6 millions d'euros à la communauté, hein, puisque c'est un projet communautaire, c'est devenu un projet communautaire. Et donc, en fait, ce dont on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que les avis des citoyens, ils s'en tapaient, quoi. Comme beaucoup de politiques, hein. Et quand je vous dis ça, j'ai rien contre lui en particulier, hein. C'est plus les pratiques politiques, c'est-à-dire que le maire de Saint-Médard, actuellement, il a une vision de la ville. Et il la met en œuvre, mais c'est la sienne. Voilà. Et donc le fait de faire participer la population, d'utiliser l'expertise citoyenne, ça reste à la marge.
Oui, c'est ça. On élabore un projet et on voit à quel point les gens sont d'accord ou pas d'accord avec le projet que l'on propose.
Ouais, mais même s'ils sont pas d'accord, on leur laisse juste décider quelques petits trucs à la marge, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, le principe, il est là.
Concrètement,
en fait,
ça donnait quoi cette place d'ailleurs, qu'on le sache?
Bah, c'est une place qui a été refaite. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule voiture. Elle est très minérale. Globalement, elle ne plaît pas à la population et on ne comprend pas pourquoi on a été dépensé 6 millions d'euros là-dedans, quoi. Ce sentiment que en fait, la démocratie s'arrête le soir des élections. Et c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont élus, ils font ce qu'ils veulent après pendant 6 ans.
Vous vous êtes regroupé à cette occasion-là, plus ou moins. En tout cas, vous avez développé votre action à ce moment-là. Mais entre ça et la participation à des élections, j'imagine qu'il y a encore quelques étapes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Alors en fait, ce qui s'est passé ensuite, donc ce travail-là, c'était dans le courant de l'année 2017, face au travail de questionnaire de bassin, et là on s'est dit ça peut pas continuer comme ça, voilà. Et moi j'entretenais des contacts avec Joe Spiegel qui me dit si ça t'intéresse, il existait, ça a été dissous il y a peu de temps, une association qui s'appelait l'IRG à Paris, l'Institut de recherche sur les gouvernances. Où en fait c'était une fondation, c'était un Suisse qui vous pourrez regarder, l'Institut de recherche sur les gouvernances. Et en fait on a été à une réunion, donc on est parti à trois copains là, des girafes, là, enfin deux copains et une copine, à 5h du matin de Bordeaux pour être à 10h à la réunion à Paris. Et en fait on a passé une journée où on a discuté, on a échangé sur les gouvernances, sur les réflexions, comment on peut faire différemment. Comment on peut aller vers un triptyque où on discute des gens qui sont à la fois des élus, des techniciens et des habitants pour changer les façons de prendre les décisions et tout ça. Et donc, dans cette journée, il y avait notamment Tristan Rechid, qui vient de Saillant et qui était parmi ceux qui ont lancé en 2014 ce qui est devenu l'aventure de Saillant, dont vous avez sûrement entendu parler.
Alors je veux bien que vous m'expliquiez ce que c'est, parce que ça ne me dit rien, figurez-vous. Alors peut-être que vous allez me le rappeler, mais là, ça ne me dit rien du tout.
Voilà, alors en fait, en 2014, avant les élections de 2014, dans le petit village de Saillant, dans la Drôme, donc Saillant, S-A-I-2-L-A-N-S, il y a un maire qui décide de faire un centre commercial, et donc il y a la population qui se soulève, qui dit c'est pas possible, on peut faire un centre commercial alors qu'on a des commerces de proximité, enfin voilà, toute l'histoire. Et puis ils gagnent finalement, ils empêchent le centre commercial de se faire en travers du permis de construire, puis après ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'il ne faut pas changer les pratiques, prendre les choses en main, et donc ils décident de se présenter aux élections de 2014, et ils gagnent les élections. Et donc Saillant, à partir de là, est devenu un espèce d'inspiration pour toutes les listes participatives, parce qu'en fait ils ont mis en place des choses pendant 6 ans, voilà. Et donc ça a été passionnant de les voir évoluer, beaucoup de gens se sont inspirés de ce qu'a fait Saillant, avec notamment la mise en place d'un sénat municipal pour expliquer comment les décisions sont prises, etc. Voilà.
D'accord, donc un exemple de démocratie participative qui fonctionne.
Exactement. Alors, ce qui ne les a pas empêchés de faire des élections de 15 voix dimanche dernier.
Ichi ya kereba tabi dachi, okiru no wa yadame. Mochiron, soto wa doshaburi, eki mada zuba nure.Chicago あたりで乗り換え知らない街チューチューだったことチューチューだったこと Black Jack コバック始めらっきりがないパシフィックアムトラック動けば止まらないやめるさ、疲れたよ。やめるさ、僕はやだね、こんな疲れるばかり。スターになれりゃいいね、あ れはいいね楽隊家業は気合い線路の上じゃ掛け事ばかりチュチュチュガタガタパシフィックアンドラック動けば止まらないやめるさ、疲れたよやめるさ
Votre midinale du mercredi sur Cause Commune 93.1 FM.
Et vous venez d'entendre un morceau japonais choisi par Valentin Taxier. Donc merci beaucoup Valentin de m'obliger à prononcer le nom de l'artiste et le nom de la chanson. L'artiste c'est Haruomi Osono et la chanson c'est Chiyu Chiyu Gatagoto America Hen. Je pense que je l'ai très mal prononcé. C'est un morceau également de 2019. On retourne voir Bruno Cristofoli qui continue de nous expliquer son parcours. Je passe sur la suite. Il découvre la belle démocratie, un mouvement qui permet notamment aux listes participatives de se rencontrer. Et c'est après que son collectif décide de se monter pour agir au niveau local, prendre la mairie. Et ils appellent leur mouvement Saint-Médard-en-Jal demain 2022. Demain, en rapport au film de Cyril Dion, un film porteur de plein de solutions et plein d'espoir en ce qui concerne l'avenir, la démocratie, l'écologie, l'économie. Mais alors concrètement, cette belle démocratie, comment ça se retrouve dans les faits? Eh bien, il nous a expliqué en fin d'entretien comment ils avaient choisi leurs différents membres de la liste et notamment la tête de liste, Cécile Marenzoni, qui n'avait pas forcément prévu de se retrouver première représentante de cette liste électorale.
Vous avez parlé un peu de moi et tout ça, de mon histoire, mais moi, je suis qu'un parmi tout le groupe. On est une centaine dans le collectif Saint-Médard-en-Jal demain, et dans ce collectif, on est trois à être élus encore. Il y a un autre élu d'opposition qui est un élu d'Europe Écologie Les Verts. Je vous ai dit que je vous les ai pas cités, Europe Écologie Les Verts, dans l'association de gauche, parce qu'ils sont pas avec eux. Ils sont plutôt avec nous, même si nous, on n'a pas de logo, on n'a pas de tout ça. Voilà. Et donc, les 97 autres du collectif, ils n'ont jamais été dans un parti politique. Voilà. On est juste trois à y avoir été et avoir été. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une liste de citoyens. Et on est participatif parce qu'on met la participation citoyenne au cœur du dispositif. Et donc, par exemple, pour faire la liste, je voudrais quand même vous dire un mot là-dessus parce que c'est important. Pour faire la liste, nous, on s'est dit, à un moment donné, comment on fait la liste? Et donc, on a dit, on est 100, c'est génial, mais on est quand même un peu dans l'entre-soi avec des gens qui pensons un peu tous avoir un peu les mêmes idées sur demain, sur l'écologie, sur la planète, sur tout ça. Et il faut qu'on ouvre à plus. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a décidé, c'est que 2/3 de la liste seraient issus du collectif et 1/3 issus du tirage au sort sur les listes électorales. Donc en fait, on a tiré au sort des gens, et notamment on a tiré au sort plein de jeunes de moins de 25 ans sur les listes électorales, pour leur proposer d'être sur la liste à partir du moment où ils étaient d'accord pour mettre la participation citoyenne au cœur du dispositif. Et donc on n'a pas été demandé aux gens s'ils votaient à droite, s'ils votaient à gauche. Nous, dans le collectif, on ne sait pas pour qui a voté pour qui aux dernières présidentielles, on s'en fiche. C'est pas la question. Même si globalement, on est plus de tendance de gauche dans les orientations, on le sent bien quand on discute entre nous, mais c'est pas un débat, vous voyez. Et donc, en fait, sur la liste, aujourd'hui, à l'issue de ce processus de tirage au sort, on a réussi à avoir 7 personnes tirées au sort, dont 3 jeunes de moins de 25 ans. Parce que l'avenir, c'est eux. L'avenir, c'est eux qui doivent le faire. Et ces 3 de moins de 25 ans, bien sûr, ils sont en haut de la liste, enfin, dans les éligibles, parce que s'ils ont été tirés au sort et tout ça, c'est pas pour après juste faire du folklore et les mettre dans les non-éligibles. Voilà. Donc ça, c'est voilà, je voulais vous dire ça.
Ça doit être, excusez-moi, je vous arrête juste là-dessus, ça doit être quelque chose de particulier, cette rencontre-là, vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui dites, est-ce que vous voulez être sur la liste, est-ce que vous voulez entendre notre démarche, enfin, ça doit être un moment un petit peu particulier.
Alors, ce qu'on a fait, en fait, le tirage au sort, c'est facile, hein, en fait, vous demandez les listes électorales, et après, nous, on a, par bureau de vote, on, avec un tableur Excel, par exemple, on tirait le numéro 324, 324, Madame Machin, donc on faisait un courrier qu'on leur portait dans la boîte aux lettres, et après on est retourné les voir pour leur demander leur avis. Et pour les jeunes, en fait, si on tombait sur un monsieur de 75 ans, on descendait jusqu'à la première personne sur la liste, née à partir de 1997. Vous voyez, c'est comme ça qu'on obtenait le tirage au sort sur les jeunes. Et oui, alors c'était vachement intéressant parce que les retours qu'on avait, c'était toujours positif, en disant globalement, les gens disaient ouais, mais on pourrait nous faire partie du jeu, c'est tout ça. Ouais. Et malgré tout, entre un tirage au sort où on vous dit que vous avez gagné une place au cinéma, où on vous demande de vous engager pour 6 ans, c'est pas la même chose, vous voyez.
Oui, donc,
voilà. Donc, mais en tout cas, ça a été ouais, on a fait 600 courriers et vous voyez, à la fin du bout, on a eu 7 personnes sur la liste. Mais on savait que sur un tirage au sort comme ça, c'est entre 1 et 2%.
Et c'est une manière de se faire connaître, effectivement.
Voilà. Mais enfin, nous, on ne l'a pas fait comme ça. On ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait vraiment pour avoir des gens autres que... Et c'est génial d'avoir ce regard des autres, de voir des gens qu'on ne connaissait pas 4 mois avant. Et alors, pour la partie des gens du collectif, en fait, ce qu'on a fait, je vous parlais d'outils d'intelligence collective tout à l'heure, on a fait ça un week-end le 14 décembre, c'était vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit d'abord à tout le monde, donc on était, on était peut-être une soixantaine ce jour-là dans la réunion, qui c'est les 13 hommes et les 13 femmes qui doivent être sur la liste. Puisqu'on en voulait 26 sur les 39, hein, il y en avait 13 qu'on imaginait du tirage au sort, et puis 26 issus du collectif. Et donc chacun a écrit les 13 hommes et les 13 femmes qui pensaient devoir être sur la liste. À partir de là, on a eu un certain nombre d'hommes et de femmes cités, et on a fait ce qu'on appelle un jugement majoritaire, où chacun s'est exprimé en disant « moi, je pense qu'un tel, il faut absolument qu'il y soit moins favorable ou plus favorable. » Je ne sais pas si vous connaissez un peu le jugement majoritaire.
Oui, je crois que je vois, oui. c'est pondéré, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne dit pas je vote pour un tel, on pondère chacune des propositions. Et donc c'est une autre façon hein, de voter, de décider ensemble encore. Et donc à partir de là, on s'est retrouvé avec l'ensemble des colistiers. Et le soir de ce 14 décembre, tous ensemble, on a décidé qui serait la tête de liste. Et là aussi, ça a été un moment extraordinaire parce qu'en fait, si on avait demandé aux gens qui c'est qui veut être tête de liste, il y en aurait peut-être 2-3. Moi, le premier, peut-être j'aurais dit parce que je fais partie des gens qui ont une expérience, ainsi de suite, qui auraient dit oui, s'il y a besoin, pourquoi pas. Voilà. Mais nous, ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on appelle une élection sans candidat, c'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé pendant une heure sur ce qu'on attend d'un maire dans nos façons de prendre les décisions, dans notre façon de fonctionner. Et une fois qu'on a eu fait ça, on a mis ça par terre, on était encore les 60 là. Et chacun s'est exprimé avec un post-it en disant « moi, je pense que pour faire ça, la bonne personne, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. » Et donc, on a posé tout ça après au tableau. Il y avait 5 ou 6 personnes citées. En ayant entendu les avis de chacun, après, il y en a, les gens ont pu changer leur vote. Et au final, on a regardé s'il y avait des objections à ce que ce soit Cécile. Et donc, c'est comme ça que Cécile Marignoni est devenue la tête de liste. Et je vous dis, Cécile, vous lui auriez demandé 2 heures avant, elle n'aurait jamais dit qu'elle voulait être tête de liste. Parce que elle ne pensait pas spécialement à ça, elle n'avait pas envie de pouvoir, de machin, mais en revanche, pour le collectif, c'est celle qui représente vraiment ce qu'on attend.
Obsolete is the punk that talk more junk than Sarah Sales. I jet propel at a rate that complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in the trade is not enough, you can't cut it. I let you take a swing and you butt it for an easy out. I leave him seized with doubt of exceeding. My name is Booty Brown and I'm proceeding, leading. They try to follow but they shallow and hollow. I can see right through them like an empty 40 bottle of OE. They have no key or no clue to the game at all. Now they washed up, hung out the dry, standing looking stupid, wondering why. Why, man? It was the fame that they tried to get. Now they walking around talking about represent and keep it real. But I got to appeal, cause they existing in the fantasy when holding it still.
Rock-a-bye, baby. Listen to your heartbeat pumping to a fine. Ravine of all things is the vein of a shrine. Omissions impossible, a possible consignment. Headed for a new sector 365. Days from now, I'll wipe the sweat from my eye. And each and every tune will stick or fall from the skies of my cloud nine. From homies all the way to ticks, no matter how fine. Controlling it's a scrolling way to wreck a proud mind. You hold it in your hands and watch a man start crying. Tear after tear in the puppet man's hands. Every time you take a stance, you do the puppet man's dance. And the world's at a standstill. Deep in broken man's bill, trapped in the boat with an anvil still. Killing yourself and dogging your help. You ain't amphibious, so grab a hold of yourself.
But through my will, my flow still will spill. Toxic, slick to shock, sick like electrocute. When I execute acutely over the rhythm on those that pollute, extra dosages is what I gotta give them. Got them mad and trembling, cause I've been up in my lab assembling missiles to bomb the enemy, because they envy me in the making of my mad currency. Currently, I think we're in the state of an emergency. Cause niggas done sold they souls and now they souls is hollow. And I think they can't follow, they can't swallow the truth because it hurts. This is how I put it down, this is my earth, my turf. The worth of my birth is a billion. And you know what time it is, I'm gonna make a million. Yeah, you know what time is it. Yeah, you know what time is it. Yeah, you know what time is it. Yeah, you know what time is it.
We all like to welcome you here to this new flight. Now entering 50,000 feet. Get you higher than the sky. All day and all night. You have to enjoy the ride. You got to enjoy the ride now. It's gonna last at least 5 minutes of your time. But the whole lifetime of the real ride. Now if you are to look out your right window, you will see a map. There's Lab Cap in California, right over there. We're just now flying over Hollywood. Getting a good glimpse now. Far side. Hold on now. Little turbulence. Little turbulence. We're going down. We're going down. Where's Quentin?
like you're gonna have to grab the parachutes. It's time to drop down on Lab Cabin, California. That'll be the spot. We just blew an engine. We're going down. It's going down. It's going down. It's going down. Only the real survive. Only the real survive. Survive. Only the real survive. Drop. Stand slow. Drop. Yeah. Infinity. 1,000 feet. 900 feet. 500 feet.
Vous venez d'entendre The Far Side, P-H-A-R-C-Y-D-E. Le morceau, c'est Drop. Vous retrouvez évidemment toutes les références de ces morceaux sur l'affiche de l'émission qui sera en ligne assez rapidement une fois que le podcast sera prêt. C'était un morceau de 1995 d'un groupe un petit peu oublié, nous dit Valentin, qu'il précise qu'il trouve ça injuste. Et c'était la scène hip-hop des années 90 des Californiens. On continue et on termine notre entretien avec Stéphane Manet. On retourne le voir. Et comme vous le savez peut-être, c'est un peu notre spécialiste des sciences humaines, des sciences du travail. Alors je lui ai demandé dans quelle mesure sa formation universitaire l'a influencé lorsque lui-même s'est présenté à cette élection locale municipale à Montrouge. Eh bien, il ne m'a pas tout à fait répondu. En tout cas, derrière, comme toujours avec Stéphane, on a dérivé. Je vous laisse écouter.
Oui, mais en fait tout le temps. Enfin, la particularité que j'ai en politique et la nature des échanges que j'ai avec les différents acteurs, c'est que j'analyse pas la politique par les sciences politiques, parce que déjà j'ai pas spécialement de compétences en sciences politiques, mais par les sciences du travail, parce que c'est ma chapelle, quoi. Et en fait, comprendre comment les gens travaillent et comment ils s'engagent dans le travail, sans forcément s'engager dans la politique, mais en tout cas s'engager, voilà, dans leur boulot quotidien et comment ils font les choses, ça permet de faire un pas de côté et ça permet de comprendre les choses différemment, de voir ce qui est en jeu, de voir comment les gens y croient ou non. Et donc du coup, ça donne un éclairage qui est vraiment, vraiment différent. Et qui me permet vraiment d'avoir beaucoup de recul et beaucoup de distance toujours sur ce qui se passe. D'ailleurs, tu as remarqué que là, dans notre discussion, j'ai pu parler des différentes listes de manière très, voilà, très distanciée, très, très dépassionnée, tout en étant clair sur mon positionnement politique et mon positionnement, du coup, vis-à-vis de ces différentes listes, mais sans avoir à, tu vois, à dire ouais, mais machin, mais celui-là, il a rien compris, parce que tu comprends. Parce que non, c'est pas ça. Tout le monde. À un propos politique, à une proposition à faire, que le meilleur gagne, et il n'y en a pas qui soit plus ou moins légitime que l'autre, quoi. Mais voilà. Mais du coup, ça éclaire énormément. Après, est-ce que je pourrais aller encore plus loin dans cette démarche et faire une recherche sur ce domaine? Bah, ça demanderait beaucoup de travail, parce que du coup, il faudrait pas seulement que je cherche, que je prenne de la distance par rapport à ce que je vois, mais par rapport à moi-même, et que je fasse. En sciences humaines, on fait beaucoup ça, tu sais. On ne recherche pas ce qu'on des phénomènes sociaux. On se cherche soi en train d'observer des phénomènes sociaux, parce que les sciences humaines sont ainsi faites qu'il y a des interactions, qu'il y a des trucs. Et le simple fait de venir sur un terrain de recherche, toi, en tant qu'individu, tu fais déplacer le terrain de recherche. Donc, ouais, ça me demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Un investissement que j'ai pas envie de donner, parce que autant la politique, je suis très engagé, j'y crois, j'ai vraiment envie de proposer des choses. Ça fait un peu langue de bois dire ça comme ça, de proposer. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment mettre à proposition, quoi. Mais bref, bon, ça, ok, ça, j'y crois, mais pas temps plein, quoi. Parce que sinon tu deviens fou.
Mais tiens, j'ai juste une petite question, je rebondis sur ce que tu as dit, qui m'intéresse pas mal, c'est de lorsque tu te retrouves à devoir parler
à porter un discours, à dire quelque chose, tu te retrouves à utiliser les mots dans leur sens convenable, dans leur sens correct. Mais il se trouve que ces mots vont ressembler aux mêmes mots utilisés pour justement de la langue de bois, pour détourner un propos. Comment tu t'en sors là-dedans ? Parce que parfois tu t'entends, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu t'entends et tu dis mince, si j'étais l'interlocuteur, je me dirais mais j'entends encore une fois le même discours langue de bois que j'ai eu à subir avec n'importe quelle autre politique. Comment tu fais pour t'en sortir dans cette espèce de jungle des mots qui ont été vidés de leur sens ?
Eh ben, justement, l'analyse du travail a permis de voir les choses avec cette distance-là. C'est pas agréable pour un politique de faire de la langue de bois. Il fait de la langue de bois parce que à côté t'as des journalistes qui vont être sauf ton respect, qui vont être à la recherche d'un scoop, d'un truc un peu croustillant ou quelque chose. Et des fois ils ont une information brûlante qu'ils aimeraient pouvoir lâcher. Alors l'information brûlante, ça peut être, je sais pas moi, je suis porte-parole d'un parti politique et j'aimerais pouvoir vous dire que je suis en total désaccord avec la ligne, mais je peux pas parce que ma fonction de porte-parole fait que. Et tu vois, des trucs comme ça, hein. Ou alors une actu du style ah demain je me déclare candidat mais je peux pas le dire maintenant. Tu vois, c'est pas agréable de faire de la langue de bois, pas forcément. Tu vois, c'est un trait particulier du personnel politique. Alors il y en a qui sont super à l'aise avec et qui font ça sans même y réfléchir. Voilà. Puis il y en a d'autres qui tu sens freiné, tu vois, que tu sens mal à l'aise par rapport à ça. Et effectivement, comment je fais ? C'est une vraie, vraie bonne question. J'essaye de toujours dire la vérité, mais le problème c'est que toujours dire la vérité, ça veut dire ne pas mentir, mais ça veut dire que tu peux pas toujours tout dire. C'est pas forcément par rapport aux électeurs, c'est aussi question de respect par rapport à d'autres gens qui travaillent avec toi ou qui vont travailler avec toi, et l'accord est en train de se faire, mais en fait c'est pas sûr, machin, tout ça. C'est aussi une question de respect pour les autres, quoi, en ce sens. Mais j'essaye en tout cas de faire en sorte de tirer toujours les gens vers le haut dans ce que je dis. Ou en tout cas, je vais même être encore plus précis, que si c'était moi qui écoutais, moi ça me tire vers le haut. Voilà. Et que ça me parle et que ça raconte des trucs. Après, j'essaye d'expliquer un maximum. C'est mon côté. Je suis formateur, donc forcément.
On l'a entendu, ouais. On l'a entendu que tu aimais expliquer des choses. Et merci beaucoup, Stéphane, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette campagne électorale ?
C'est la pire campagne que j'ai jamais faite.
Pourquoi ?
Clairement, elle a été incroyablement difficile. Déjà, ça se ressent dans les résultats. Puisqu'on a fait
3,31% selon les informations que j'ai devant moi.
Combien ?
3,31%.
3,31, ouais. En fait, c'est pas une question de 3,31. C'est une question de... C'est comment tu analyses ce chiffre par rapport à d'autres références. Et là, il y a une référence facile à prendre, c'est 2014. 2014, on a fait 7%. Enfin, 6,7 de mémoire. On a fait 6,7 sans être connu de personne, sans parti politique à l'époque où les listes citoyennes n'étaient pas à la mode. Donc, à l'époque, c'était une prouesse. À l'époque, c'était un vrai truc. 7%, c'est un très bon score par rapport au contexte. Par contre, quand tu as 6 ans pour travailler ton terrain, et que tu as pour résultat de faire moitié moins que ce que tu as fait avant, c'est clairement une débandade. Donc moi, à la fin de la campagne, je l'ai même tout simplement juste pas faite, parce que j'étais pas en accord avec ce qui se faisait, et je voulais pas être dans une situation de langue de bois, comme on disait précédemment, où je raconte des trucs dans lesquels je crois pas. Donc je me contentais de rester discret. Et donc du coup, voilà, il y a eu des accords entre les listes qui sont faites, et puis qui se sont annulées pour finalement faire d'autres, et puis il y en a un qui a abandonné l'autre, et puis vice-versa. Il y a eu que des trucs comme ça, tant et si bien qu'on n'a pas suffisamment parlé de fond, que le programme est pas suffisamment dense. Et tu vois, une des raisons pour laquelle je soutiens Juliette Méadel pour le deuxième tour, c'est une raison qui est bête, hein. mais du coup qui maintenant se comprend, enfin qui est simple, mais qui se comprend maintenant avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'est la seule liste à avoir fait un budget. C'est-à-dire qui est capable de se projeter en étant élu et de dire voilà, là on a tant d'argent et voici comment on le dépense centime par centime. Et donc du coup, voilà, ils précisent, ils s'engagent à pas augmenter les impôts, machin, tout ça, mais en tout cas, ils ont été capables de faire ça. De simplement budgétiser leur truc. N'importe quelle liste qui fait un programme qui n'est pas budgétisé, c'est de l'intention, c'est du yaka faucon, mais derrière c'est creux. Et nous, c'est malheureusement ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, je le déplore, tout simplement parce qu'il y a eu des tractations et des jeux entre les personnes que j'ai tout fait pour éviter et je ne m'y suis pas parvenu. Donc pour cette raison déjà, elle a été très désagréable. Et l'autre raison, c'est tout simplement parce que sur Twitter, on a vu fuiter des informations personnelles des uns des autres, des attaques, mais tu vois, qui touchent à du perso et qui n'avaient rien à voir avec du propos politique ou de la proposition programmatique. Donc je dis ça venait de toutes parts. Hein. Je ne cible personne en particulier, mais en tout cas, j'ai constaté ça émanant de toutes sortes de candidatures. Et je sais bien que c'est le jeu politique. Il y a énormément de compétition. C'est une compétition qui est d'une violence, mais juste incroyable. Mais ce qui me dérange dans ça, c'est que ça participe justement au désintéressement des citoyens quand ils lisent sur Twitter, tu as des écharpements comme ça ou des trucs comme ça. Donc ça aussi pour ça, ça a été très très difficile. Et donc voilà, tout simplement, c'est la pire campagne que j'ai jamais vécue, aussi simplement que ça. Et donc du coup, au moins pour ça, elle a été force d'apprentissage. Je pense qu'il y a un paquet de choses sur lesquelles je serais beaucoup plus méfiant maintenant.
Mais alors juste pour qu'on comprenne, les coups bas, c'est quoi? C'est des attaques personnelles? C'est du dévoilement de la vie privée? C'était de quel ordre?
Ouais, c'est, alors par exemple, mon tête de liste a été accusé de ne pas vivre chez lui, sous prétexte que son adresse personnelle était sur Airbnb. On parle d'un immeuble résidentiel, dans la résidence, il y a 4-5 immeubles. Mais donc, du coup, ça veut dire que son adresse personnelle est dévoilée. Donc, il y a des accusations comme ça, corroborant le fait que son frigo était vide quand l'un est allé visiter l'autre et qu'il se retrouve maintenant sur une liste concurrente, blabla. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est ce niveau-là de caniveau, tu vois. Mais c'est d'une tristesse, incroyable.
Et ça a été massif comme phénomène? Là, je veux dire, il y en a eu beaucoup ou... Pas tant que ça. Enfin, je sais pas, il y en a eu combien d'affaires de ce genre-là, d'attaques de ce genre-là?
C'est pas question de combien, c'est une question de dans quelle ambiance tu baignes pendant plusieurs semaines. Et il y a une bonne partie des semaines où on a été quand même vachement dans ça. Et c'est dommage. Et alors, paradoxalement, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais alors évidemment, ce sont beaucoup les listes d'opposition qui sont écharpées entre elles. Bon, pas toutes, hein, mais voilà, quelques-unes. Mais c'est beaucoup faute de la majorité, en fait, cette histoire-là. Parce que il y a on a toujours vécu un respect républicain sous la précédente mandature, qui était de la même couleur politique, mais le fait qu'on ait eu un changement de maire en cours de mandat fait que c'est le même programme et la même équipe, mais pas la même personne. Et la personne actuelle, elle a pas cette espèce de respect républicain. Et donc du coup, quand t'as, c'est bête ce que je vais dire, mais tu vois, quand t'as un prof qui écoute ses élèves, il y a plus de chances que les élèves s'écoutent entre eux. Et donc du coup, que t'aies une classe qui soit tenue, sage, et qui s'envoie pas des boulettes de papier quand t'écris au tableau. Et c'est le même phénomène. À ceci près qu'il y a des élèves qui veulent devenir prof, du coup, et prendre sa place. Mais tu vois, t'as cette espèce de stature, cette espèce de sérénité un peu paternaliste ou maternaliste, qui tu vois, qu'il faut avoir. Et quand t'as un maire qui est pas sûr de lui, un peu fébrile, tu vois, qui fait beaucoup de gros chèques pour se donner de la contenance et qui perd ce côté un petit peu républicain avec un beau R majuscule, et du coup ça donne un dialogue général qui est pas très sain, mais qui retombe directement sur les électeurs. Parce qu'à la rigueur, que les gens se mettent sur la tronche, ça existe dans les grandes boîtes, ça existe dans les associations, c'est pas la question, ça. On décrit beaucoup et on met beaucoup en doute le personnel politique pour des choses qui se font dans les entreprises où tu as des pratiques humaines qui sont pas forcément moralement acceptables, mais qui font partie de l'humain. Mais par contre, quand ça retombe sur les électeurs qui n'ont pas besoin de voir ce genre de choses, et qui du coup, se faisant, participent à l'abstention, ouais, là ça me pose un problème, ouais. Là ça me pose un gros problème. Et du coup, voilà, je pense que pour les prochains scrutins, je ferai beaucoup plus attention à ce qu'il y ait de l'écoute entre les gens. Et surtout les gens qui sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est ma leçon à moi. C'est personnel, hein, mais c'est la leçon que je me suis faite à moi.
Eh ben, écoute, ok, merci beaucoup, Stéphane. En attendant, on va te retrouver quand même pendant quelques années sur Cause Commune, alors.
Bien sûr, oui, plus que jamais.
Toujours présent, de temps en temps, dans Carte Blanche. On a un retour à l'antenne pour ta propre émission de prévu, là.
Bah, qui était censé se faire la semaine prochaine, mais avec le confinement...
C'est un peu compliqué, ouais.
Oups. J'avais les deux premiers invités, et du coup, bon, je peux teaser un peu quand même.
Allez,
tu
vas-y,
veux
vas-y.
Que je tease un peu?
Tu veux
du scoop, hein, c'est ça ton côté journaliste.
Tu les connais.
C'est ça qui se passe. Donc, tu veux teaser. Moi, la première émission, j'avais pensé faire venir... Alors donc du coup, on se retrouvera les samedis après-midi. Et j'ai envie de présenter des gens, mais sans mettre trop de contraintes, comme je le faisais avant avec les sciences. Même si je ferai encore des émissions scientifiques, évidemment, mais présenter un peu comme ça des gens un peu qui sortent de l'ordinaire, un peu inspirants, un peu étonnants, qui font des trucs marrants et qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde. Pour la première émission, j'avais pensé à faire venir une artiste qui monte une ligne de vêtements uniquement faite en crochet. Il y a des cravates en crochet. Des gilets en crochet, machin, c'est que du crochet. Pour la seconde émission, faire venir le DG d'un concours d'opéra. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le concours d'opéra en tant que tel, mais c'est surtout les implications sociales et culturelles de ce concours d'opéra vis-à-vis d'un public qui n'a pas forcément accès à ce type de contenu. Ça, c'était les deux premières émissions qui étaient programmées et que je suis en train de reprogrammer. Et après, dans les personnes... Et ben, il y en a encore plein que j'ai envisagé. Un des fondateurs d'Acropolis, la directrice de la maison de l'Argentine à la Cité Universitaire, pour qu'elle nous explique un petit peu à quoi ça sert une maison à la Cité Universitaire. Le recordman français du nombre de diplômes, il a des CAP dans tous les sens, il a une thèse, il a je sais plus, 30 ou 40 diplômes, un compositeur, un beatmaker, et le but c'est de parler d'eux.
Et merci beaucoup à Stéphane Manet et à Bruno Cristofoli d'avoir accepté de répondre à mes questions, d'avoir un petit peu philosophé et dérivé avec moi pour cette émission, donc consacrée aux listes participatives, aux listes citoyennes, aux élections municipales. C'était Carte Blanche. Bonne continuation à l'écoute de Cause Commune. Je vous le rappelle, 93.1 FM, 24h sur 24 sur cause-commune.fm et en DAB+, la radio numérique terrestre. On se retrouve, pour ceux qui nous écoutent en direct, ce soir à 22h pour une antenne libre sur Cause Commune. À tout à l'heure et sinon à la semaine prochaine.